avec les autres aussi d'ailleurs. Bien, alors vous rappelez, ce que nous avons étudié, c'est la première, le premier récit qui nous met en jeu ce que je vous ai appelé la relation des frères entre eux. Vous vous rappelez de tout cela ? Bon. La première chose qu'il faut noter, c'est que pour ce récit de la Torah, c'est l'événement de l'histoire le plus important puisqu'elle commence par précisément par ce récit. C'est ta place habituelle. Alors, qui est-ce qui se met là d'habitude?
C'était moi, mais déjà la dernière fois, j'ai
Lala.
Auparavant, c'était moi, mais la dernière fois.
Donc, c'est là. Je veux dire que parmi tous les épisodes de l'histoire de cette génération de l'humanité, où nous voyons qu'il y a deux sujets humains en présence, ce que la Torah tient à nous raconter, c'est ce qu'il en est de leur relation de sujet humain à sujet humain. Et d'emblée, on apprend qu'il y a là, au niveau de la typologie que nous avons commencé à analyser, deux manières d'être homme radicalement différentes. Bien qu'il y ait, je ne veux pas dire égalité, vous vous rappelez qu'on a déjà eu cette analyse critique, mais bien qu'il y ait fraternité absolue. C'est intentionnellement que la Torah nous raconte qu'il s'agit de frères, et plus encore, d'après le Midrash, vous en souvenez, de frères jumeaux. Donc il ne peut pas y avoir plus de situation d'équivalence du point de vue de la dignité de la créature. Et cependant, on est averti par la manière dont la Torah nous décrit la naissance de ces deux personnages, Caïn et Abel, que ce sont deux manières d'être hommes différentes par rapport au problème moral. C'est bien clair jusque-là ? Par rapport au problème moral, Caïn naît le premier, c'est le premier-né, il a une conscience d'être acquis, c'est-à-dire il s'est déjà mérité, il n'a pas à se mériter, il n'a pas de souci de moralité pour avoir à mériter son être. Alors que Abel nous apparaît comme ayant la vocation du berger dès l'origine, et quelle est la vocation du berger? Vous l'avez compris par vous-même, je suppose, c'est littéralement la vocation du frère, être frère d'eux. On a dépassé, si vous voulez, la définition de ces termes au niveau de l'état civil, c'est bien clair. C'est une manière d'être qui consiste à être capable d'être frère, à la capacité de fraternité, et qui est la vertu indispensable pour résoudre le problème de la société humaine, qui est le problème non résolu depuis le commencement de l'histoire. Ça ne veut pas dire que depuis le commencement de l'histoire et jusqu'à l'ère messianique, qui est vu de ce point de vue comme étant le temps où l'homme sera pacifié, à ce niveau et à tous les niveaux d'ailleurs, il y a eu des individus d'élite qui ont résolu ce problème. Mais ce que je veux dire, c'est que la société humaine en général n'est pas encore arrivée à trouver une solution à cette question. Et elle est en question. La dernière tentative, et on pourra en parler d'autre part, mais enfin, si vous avez suivi l'histoire contemporaine, vous voyez à quel point elle est mal partie. La dernière tentative, c'est tout simplement l'ONU. C'est-à-dire une tentative désespérée, in extremis, de la civilisation contemporaine, d'essayer de résoudre le problème de l'agressivité, des conflits à tous les niveaux. Et vous voyez à quel point la réalité politique contemporaine est en décalage absolu avec ce rêve d'une humanité pacifiée, c'est-à-dire qui prendrait délibérément le parti pris de résoudre ces conflits pacifiquement et non pas violemment, par la violence, comme ça commence ici. C'est clair jusque-là. Bon, alors laissons ce pessimisme de côté, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais on nous a mis en place, encore une fois au niveau d'une typologie très schématique, deux manières d'être homme. Prêtez toujours bien attention au genre de vocabulaire que j'emploie chaque fois, c'est intentionnel parce que c'est traduit de l'hébreu. Et ce sont les mêmes hommes, en tant que l'un et l'autre sont le fils de Adam et de Chava, frères jumeaux, mais du point de vue de leur prise de conscience de soi, ce sont deux manières d'être hommes différentes, radicalement différentes, par rapport au problème moral. C'est bien clair? Ça va jusque-là. Avant de relire les deux versets, d'aller plus loin, je vais vous mettre au tableau le schéma du problème que nous sommes en train d'étudier. Et encore une fois, ça vous donnera pour la première fois, disons, un exemple de la raison pour laquelle, à travers tout ce que l'histoire aurait pu raconter d'elle-même, la Torah choisit tel ou tel thème parce que c'est celui qui met en question l'identité humaine dans le déroulement de son histoire. Alors le problème est le suivant. D'ailleurs, tout se passe comme si, dès que l'homme est en situation sociale, je vais employer le terme de relation d'altérité, vous vous rappelez ce que ça veut dire, la relation, être en relation avec autrui, avec autre que soi, apparaît un problème insoluble au niveau de la nature. Finalement, cet échec de la moralité dans ce récit, c'est le fait tout simplement que la nature humaine a triomphé de la valeur morale. Je vais essayer de vous expliquer un peu mieux ça. C'est le fait que, dès que deux sujets sont en présence, étant donné que dans toute relation, il y a un sujet et un objet, inévitablement, la dignité d'un des deux sujets risque d'être atteinte. Je répète ça, aussi sous d'autres formes. C'est-à-dire, dans toute relation, il y a un sujet de l'acte et un objet de l'acte. C'est bien clair. Or, a priori, les deux sujets, la dignité des deux sujets devrait être préservée. Mais dès qu'on commence à agir, un des deux sujets de cette relation d'autrui à autrui est mis dans la situation d'objet. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'avait pas chanté. Donc, je vais mettre ça au tableau. Et ici, nous voyons que cet échec de la relation de sujet à sujet, qui fait qu'un des deux sujets est devenu un objet de la relation, et vous voyez quand cette objectivisation du sujet évacue sa dignité. Vous avez bien suivi ? Tout le monde a compris ? Bon. Et tout se passe comme si, à moins d'arrêter complètement d'agir, c'est inévitable. Donc l'histoire humaine est donnée à un problème insoluble. C'est clair ? Pas encore. Je vais reprendre ça 10 fois, jusqu'à ce que ce soit clair. Mais ici, en tout cas, je vous le dis avant d'oublier, c'est l'échec est total. Parce que la limite de rendre objet un sujet, c'est le meurtre. C'est clair ? C'est-à-dire Caïn a rendu Abel objet complètement en l'assassinat. C'est clair ? Alors je vais vous mettre ça au tableau, vous allez peut-être mieux comprendre. Voilà. Le problème qu'il y a à résoudre, c'est la relation d'un sujet avec un autre sujet. Alors quelle est la définition ? Dès qu'il y a mise en relation par un acte quelconque, un des deux sujets est le sujet de l'acte et l'autre devient objet. Vous avez compris ? Donc à la limite, c'est cette équation-là qu'il nous faut résoudre. Par exemple, je vous parle. Je vous parle, ça veut dire que je suis sujet de cet art et vous êtes objet. Par conséquent, votre dignité est mise en parenthèse. C'est moi qui parle. C'est clair ? Bon. Donc je dois parler d'une manière telle que votre dignité soit réintégrée. Sinon, j'ai porté atteinte à la loi morale. C'est clair jusque-là ? Bon. Inversement, vous m'écoutez. Et là, c'est vous le sujet. Et moi l'objet. Vous suivez ? Par conséquent, vous devez m'écouter d'une manière telle que ma dignité soit réintégrée. En tout cas, en général, quand on rit, c'est que c'est réussi. Bon. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une relation de réciprocité idéale, mais au niveau de l'acte de nature, il n'y a pas de réciprocité. À chaque acte, à chaque geste d'agir, il y a un sujet et un objet. C'est bien clair ? Bon. Alors, tout semble, tout se passe comme si, a priori, la société humaine est donnée à un problème insoluble. C'est bien clair ? Alors, je vais vous mettre en schéma les différentes tentatives de solution données par les différents types de civilisation. Et on va essayer de situer la réponse que la Torah veut donner à ce problème. Mais retenons déjà, j'ai souvent répété, mais c'est important de bien l'avoir clairement à l'esprit, que c'est le problème essentiel de la société humaine et qu'il n'a jusqu'à présent pas trouvé de solution concrète. Vous comprendrez pourquoi, lorsque les prophètes vont intervenir, ils vont intervenir essentiellement sur ce problème-là. Déjà dans tout ce que vous lisez probablement autour du judaïsme dans le temps de culture contemporaine, vous avez dû remarquer à quel point les Juifs, pas seulement eux, mais le problème essentiel qu'on essaye de cerner, c'est comment être en relation avec autrui de telle sorte qu'il y ait la paix dans le monde. À la limite, c'est bien cela. C'est bien clair. Alors voilà, vous avez un premier type de civilisation qui va essayer de résoudre le problème de la manière suivante. Puisque dans chaque acte de mise en relation, et toute l'histoire, c'est l'ensemble, le faisceau de toutes ces mises en relation, quelles qu'elles soient. D'autrui à autrui, il y a un sujet et il y a un objet, inévitablement. Je préfère être le sujet et que l'autre soit l'objet. Voilà un premier type d'attitude de civilisation. C'est quel type de civilisation, cela ?
La colonisation.
Parlez plus fort.
La colonisation.
C'est un exemple.
La monarchie.
Pas forcément. Je ne comprends pas complètement à quoi tu fais allusion, mais c'est trop particulier ce que tu dis là. C'est tout simplement ce qu'on appelle les systèmes totalitaires. C'est-à-dire, c'est moi qui me considère comme sujet et j'impose ma manière d'être à l'autre, cas particulier la colonisation. C'est bien clair ? Alors vous avez des philosophies, des théologies qui vont avec. Je ne veux pas trop compliquer les choses, mais je ne vais même pas vous donner d'exemple encore. En tout cas, toutes les sociétés totalitaires, les régimes totalitaires, toutes les sociétés qui se terminent en isme, l'isme de Suez y compris, le fascisme, le nazisme, tous les ismes. Hein. Ça veut dire, c'est moi qui sera le sujet et toi tu seras l'objet. Et on a résolu le problème. C'est au niveau, en général, d'une civilisation matérialiste. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble dans le même kibbutz, dans la même tendance. C'est une première équation. Vous y êtes ? Bon. Puis finalement, nous en trouvons une deuxième qui va inverser le problème. Puisque, inévitablement, il y a un sujet et un objet, et que ce n'est pas moral que moi je transforme l'autre en objet, alors je vais accepter moi d'être l'objet et que lui soit le sujet. Vous avez compris ? C'est un deuxième type de tendance. Objet. Où est-ce qu'on trouve cette attitude ? Dans l'histoire des civilisations. C'est-à-dire, j'accepterai d'être objet, que l'autre soit le sujet. Au moins, ce ne sera pas moi qui serai le méchant. Que ce soit l'autre. Et vous voyez, toute attitude de sacrifice, auto-suicide. Okay. Dans quelle doctrine on trouve cette équation ?
Vous avez...
Parle plus fort.
Au niveau dans le catholicisme, je crois qu'on la trouve pas mal, au niveau des martyrs, au niveau
de... Donne-nous un exemple dans la littérature occidentale, européenne. Est-ce que le héros moral par excellence...
Par exemple, Jésus, c'est tout à fait...
C'est pas dans la littérature occidentale.
Non, mais c'est quand même en rapport avec la personne...
Non, je pensais en particulier à certains héros de la littérature russe. Vous avez lu Tolstoï, Gorki, etc. Où l'atmosphère, par exemple, l'atmosphère morale de ces textes, enfin de ce type de littérature, ça va tout à fait avec le mysticisme slave d'ailleurs, et en particulier russe, c'est que le héros de la moralité, c'est le sacrifié. Ce que tu dis est exact, grosso modo, c'est théoriquement la doctrine chrétienne, théoriquement. Parce que concrètement, les sociétés chrétiennes n'ont pas fonctionné comme ça, sauf dans le cas des couvents, des ordres. Mais dans la société, dans la cité chrétienne, on n'a pas fonctionné sur ce modèle. Mais c'est théoriquement l'équation chrétienne. C'est bien clair ? Vous êtes tous d'accord ? C'est-à-dire, étant donné qu'il faut qu'il y ait un sujet et un objet, eh bien, que ce soit l'autre le sujet, au moins je ne serai pas compromis avec ce mal d'être le sujet d'un objet. Vous avez bien suivi ? Et à la limite, il y aura la vertu du sacrifice, mais il y a échec du problème de la moralité. Du problème de la moralité. Étant donné qu'il y a une victime, donc il y a échec moral. Je me réfère surtout à ce texte de la littérature russe.
Est-ce qu'on entre là-dedans le Werther, par exemple ?
Quel ?
Le Werther, la souffrance du jeune Werther.
J'ai pas compris. J'ai pas
entendu. La souffrance du jeune Werther de Goethe.
Ah.
Parce que c'est.
Ce qui m'étonnait, c'est que tu dises le jeune comme ça. Ça va un peu dans ce sens-là, mais l'acquiescement à être sacrifié par rapport à quelqu'un d'autre, c'est cette tendance-là. Bon. Ça fait apparaître une valeur qui est la vertu du sacrifice. Il y a un héroïsme du sacrifice, si vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que le problème moral qui est posé à l'origine est en échec, puisqu'il y a une victime. On n'a rien gagné. C'est-à-dire, dans tous les temps, il y a une victime. Ici, c'est moi. Alors, il y a une espèce de halo d'héroïsme du sacrifice qu'il n'y a pas ici, c'est le massacre absolu. Mais finalement, le suicide, c'est aussi du massacre. Vous avez compris le... C'est clair ? Bon, donc là et là, il y a échec. Cette solution a été tentée parce qu'on n'a pas pu supporter celle-là. Et puis, troisième possibilité, on la trouve surtout dans les tendances des mystiques d'Extrême-Orient. Ça consiste à dire, puisque dans chaque acte, il y a un sujet et un objet, et que c'est inévitable, pour éviter cet assassinat de l'autre en tant qu'objet, on va s'arrêter d'agir. On supprime le problème, parce qu'on n'a pas de solution. Et je vous apprends un terme en français qui vient du grec et qui exprime cette tendance, ça s'appelle l'ataraxie. L'ataraxie, ça veut dire le refus d'agir. Je vais citer par exemple un proverbe chinois. Et il vaut mieux être assis que debout. C'est pas pour ça que je m'assois, mais... Il vaut mieux être assis que debout. Il vaut mieux être couché qu'assis. Il vaut mieux être mort que couché. Oui, ben, quelle tendance ça. La philosophie, qui je crois a de la façon la plus majestueuse, je ne sais pas comment dire, grandiose, exprimait cela, en tout cas tel qu'en Occident on peut connaître ces choses-là, parce que le monde de l'Extrême-Orient a ses propres évidences et ce n'est pas forcément compréhensible d'emblée pour des Occidentaux, c'est le bouddhisme. Vous voyez, à un certain stade, on va finalement prendre acte que tout acte amenant le malheur, il faut arrêter d'agir et le bonheur se trouve dans l'ataraxie. Vous avez bien compris cela. C'est une toute autre tentative de résoudre ce problème. Et le refus de l'histoire. Et la vertu que l'on atteint dans cette attitude-là, objet-objet, s'appelle l'équanimité. C'est-à-dire équanimité, vous ne connaissez pas ce mot-là ? L'égalité d'humeur, n'être agité par aucun désir, aucun souci, aucun plaisir, aucune envie, l'équanimité, le nirvana des extrêmes-orientaux. Il ne se passe rien, alors il ne se passe pas de mal. Et pour qu'il ne se passe pas de mal, il faut qu'il ne se passe rien. Même troisième temps, c'est clair ? Bon, alors je récapitule. Sujet-objet, ça c'est le totalitarisme, l'histoire qui massacre. Objet-sujet, c'est une tentative du sacrifice pour, au fond, refuser la responsabilité du mal pour soi, mais on n'a pas résolu le problème. C'est clair ? Là, on a arrêté l'histoire, et il ne reste qu'une seule équation pour résoudre le problème, c'est celle-là. C'est que les deux sont des sujets. Et c'est ce que nous aurons à élaborer dans la réponse de la Torah à ce problème. Comment elle a posé le problème ? C'est que dès qu'il y a deux sujets en présence, un devient objet. Caïn a tué Abel. C'est clair ? Et nous allons voir la recherche de la reconstruction de l'être de fraternité qui ferait que les deux termes de la relation humaine soient des sujets. Je vous donne tout de suite la réponse. Vous allez voir que, intellectuellement, c'est très facile à comprendre. Mais c'est pratiquement que c'est difficile à faire, à réaliser. C'est le fait que chacun va reconnaître l'autre comme supérieur. Alors il n'y a pas d'inférieur. Je répète, chacun reconnaît l'autre comme supérieur. Donc il n'y a pas d'inférieur.
C'est la relation sujet-sujet.
C'est la relation sujet-sujet. C'est-à-dire, je reconnais que l'autre est mon sujet, mais lui reconnaît que moi je suis le sien. Si ce n'est pas réciproque, il y a échec. C'est clair ? Où est la difficulté ? C'est dans la réciprocité. Parce que c'est très facile, finalement. Le plus fort va prendre cette équation. Okay ? Le plus tendance au sacrifice va prendre celle-là. Ici, on a arrêté l'histoire. Okay ? Et puis là, c'est très difficile à faire. Dans toutes les relations, considérer l'autre comme supérieur, si c'est réciproque, c'est gagné. Si c'est pas réciproque, on tombe ou là ou là. clair ? Vous avez compris le problème ? Je vous donne un petit exemple. En français, pour se saluer, on dit monsieur. Bonjour monsieur. On dit à l'autre, dans l'ancien français, qu'est-ce que ça veut dire monsieur ? C'est mon sieur, c'est-à-dire mon seigneur. Voilà, vous avez une tentative là, qui est au niveau du langage, qui représente une tentative de cet ordre. Chacun va dire à l'autre qu'il le reconnaît comme supérieur. Mais si l'autre se prend au sérieux, on lui a dit monsieur, il l'a cru. Donc, sujet-objet, c'est l'échec. Alors, il faut manier ça avec beaucoup d'humour. Si quelqu'un vous dit monsieur ou madame, prenez pas ça au sérieux. Parce que si c'est pas réciproque, c'est clair. Alors, voilà donc l'équation que nous avons à résoudre. Vous avez bien compris ? Bon, alors tous les éléments que nous allons apprendre dans cette recherche de l'homme de fraternité entrent dans ce schéma et nous allons voir à quel point ça va être très difficile de faire émerger ce type de conscience, mais n'oubliez pas, ça vous expliquera énormément de choses de la relation entre le judaïsme et le reste de l'humanité, qu'il faut qu'il y ait réciprocité pour que ce soit efficace, enfin pour que ce soit effectif. C'est bien clair. On apprendra énormément de choses à ce sujet. Vous remarquerez, puisque vous commencez déjà à lire tous ces textes, vous remarquerez que le mot de frère a joué un rôle très important dans le premier verset du texte. Okay. Abel est né comme frère. Et puis que ce mot va disparaître du texte quand Caïn va assassiner Abel. Il a assassiné l'être frère. La civilisation qu'il fonde est basé sur une équation grave, la cité est fondée sur le meurtre du frère. Donnez-moi un exemple de cela dans la culture générale. Voilà. Oui, le mythe fondateur de Rome, c'est le mythe de la louve, et les deux jumeaux, Rémus et Romulus, deux frères jumeaux, l'un tue l'autre, et c'est ainsi que la cité est fondée. La Torah est contre. Vous avez compris cette opposition de mentalité. Je veux dire, au niveau de la réalité de nature, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, la Torah diagnostique qu'au niveau de l'être de nature, c'est comme ça que ça se passe. Mais Rome va adopter cela comme mythe fondateur de la cité. La cité romaine est basée là-dessus. La cité ne peut exister que dans cette équation-là. Oui. L'empire, l'impérialisme. Je préférais d'ailleurs ce terme d'impérialisme pour expliquer ça plutôt qu'un colonialisme qui n'est qu'un cas particulier. C'est clair. L'impérialisme, ça consiste à imposer sa manière d'être à l'autre. Alors que le colonialisme, c'est une dimension de cela, mais bien plus précise. Le colonialisme, ça consiste à vouloir continuer avec les enfants des autres. C'est ça le colonialisme. C'est-à-dire une nation qui se sent à l'apogée, c'est-à-dire juste avant le déclin, elle devient impérialiste, mais elle est colonialiste lorsqu'elle essaie d'imposer aux enfants des autres sa manière d'être. Par exemple, je me rappelle en tant que petit Nord-Africain, quand on apprenait à l'école, nos ancêtres les Gaulois, ou les petits Sénégalais qui apprenaient à l'école. Mais le plus fort, c'est qu'ils y croyaient. Vous comprenez ? Et ça, c'est le colonialisme. Et alors, là, ça vous dit quelque chose ? Vous vous rappelez quand vous avez appris ? Bien, ça ne veut pas dire que les Gaulois étaient colonialistes, mais c'est un exemple. Et alors, comme je vous le disais, le mot de frère disparaît du récit, et nous allons avoir affaire à une civilisation, depuis Caïn jusqu'au déluge, à différentes étapes, comme nous allons le suivre, qui est fondée sur cette suppression de la dignité d'autrui. Nous faisons aujourd'hui partie d'une civilisation qui a entendu le message de la Bible, et que la solution doit être dans la reconnaissance de la dignité d'autrui. Il n'en reste pas moins que le fait naturel de la relation sociale, c'est celle-là, le mythe romain, c'est-à-dire que le plus fort s'impose au moins fort, qu'il y a un sujet et un objet. C'est clair ? Bien. Et le mot de frère ne va réapparaître dans le texte qu'avec Abraham. Ce sont les textes qu'on va lire ce Shabbat. Le mot de frère ne réapparaîtra dans le texte biblique qu'avec Abraham. Et on suivra cette ligne de lecture, la reconstruction de l'être de fraternité. Bien. Alors, je vais reprendre le texte tel que nous l'avons vu. Vous direz s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris la dernière fois ou maintenant, et on essaiera d'avancer. Alors, Veha Adam Yadar et Chava Ishto, et l'homme a connu Chava, sa femme, Vatahar, elle conçut. Suivez bien sur le livre. Hein. Vatahar, Vateled et Kaïn. Et un enfanta, Kaïn. Rappelez que la forme de l'expression indique que c'est le nom essentiel de cet enfant, de ce fils de l'homme. Il ne peut pas s'appeler autrement, comme s'il ne pouvait pas s'appeler autrement. Ceux qui ont le commentaire de Rashi, vous vérifierez. Rashi explique Caïn, Al-Shem, Kaniti, que Caïn a été nommé d'après ce que Chava elle-même dit à la fin du verset pour le définir. Vatomer et elle dit Kaniti Ish et Hashem. J'ai acquis un homme avec Dieu. Vous vous rappelez de cela? Bon, là je vais ouvrir une parenthèse que je n'ai pas étudiée la dernière fois, mais je vais attendre que chacun ait un livre pour lui, une fois de plus. Ça y est? Allez, suivez sur votre texte. Il y a ici un problème d'exégèse que je veux tout de suite aborder, bien que rapidement. Qu'est-ce que ça vous suggérerait, Kaniti Shetaché, une femme qui dit qu'elle a eu un enfant avec Dieu, hein? C'est ça? Non? Avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire des choses pas claires. Je reprends le texte en hébreu tel qu'il est. Kaniti, j'ai acquis, Ish, vous vous rappelez la différence entre Ish et Adam? Adam, c'est l'identité de la nature humaine, Ish, c'est un homme individuel, une personne nommée individuellement. Et Hashem, le mot de Et, la désinence de Et en hébreu, je vais faire un peu de grammaire, mais c'est important. Et, cette désinence, Et, Aleph, Ta. Je ne complique pas avec les voyelles parce que c'est tantôt inséré comme ça, maintenant on se vole, et indique le complément d'objet. En général, en grammaire. Par exemple, si je veux dire, je prends le livre, Ani Lokar, et assez. Et indique le complément d'objet. En latin, on appelle ça l'accusatif. Vous voyez quelle forme grammaticale, il s'agit. Okay. Seulement, les grammairiens ne savent pas expliquer pourquoi. Tantôt on dit être, tantôt on ne dit pas être. C'est un autre problème. Je vous donnais un premier exemple que je vous avais annoncé au dernier cours, mais on ne l'a pas étudié finalement. C'est dans le premier verset de la Torah, lorsque je vous ai dit que l'objet du créé, c'était la matière première du monde, okay, qui a été ensuite agencée, formée, façonnée, agie, jusqu'à ce qu'elle devienne habitable pour l'homme, sixième jour, Shabbat. Vous vous rappelez de cela? Alors, je vais vous montrer comment c'est dans le verset. Ce n'est même pas la peine d'ouvrir le livre, vous allez le voir par vous-même. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et on traduit habituellement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un mot qu'on n'a pas traduit. Lequel? Et. Donc, il faut le traduire plus précisément. Au commencement, Dieu créa le et des cieux et le et de la terre. Le et désigne l'objet comme tel. Ce que les cieux vont devenir, ce que la terre va devenir. Et un midrash qui explique que tous les éléments de la création sont créés dans l'instant du commencement, à l'état de chaos, ils seront organisés à la manière dont le langage organise les lettres de l'alphabet. Vous avez l'allusion est dans le mot de Hé, de la première à la dernière lettre de l'alphabet. C'est organisé, chaque organisation de lettres fait apparaître un mot qui désigne un objet. De la même manière, les objets eux-mêmes sont organisés comme combinaison, synthèse, d'éléments de base dont l'ensemble, c'est de l'alphabet, et, le et de la chose. Ça va jusque-là? Mais vous retiendrez que c'est la racine que nous trouverons tant en hébreu qu'en araméen pour désigner l'objet comme tel. Je reviens à l'équation de départ. Sujet, objet. Vous remarquez quelque chose de très important en hébreu. En hébreu, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin au niveau du sujet. Ani, c'est tant pour masculin que le féminin. Okay. Alors, comment disons toi? Et quand je dis toi, c'est ça, sujet-objet. Je, toi. Toi, c'est l'objet. Vous suivez? Comment on dit toi en hébreu? Ata. C'est le mot qui désigne l'objet comme tel. Alors là, il y a une anomalie. Ata, c'est le masculin, et at, c'est le féminin. Comment vous expliquez ça? En général, le et montre le féminin. Okay. Vous avez la réponse? Non. Alors, laissez ça. Non. En suspens, réfléchissez dans vos rêves romantiques. Réfléchissez bien à cela. Pourquoi la situation d'objet est encore accusée plus chez l'homme que chez la femme? Lorsqu'on dit toi à quelqu'un, on lui dit at au féminin, si c'est un masculin, et at si c'est un
féminin.
Donc quoi?
Parce que sans la mère,
quel rapport?
Ça veut dire que c'est peut-être ce qui le rapproche
à la... Non, si un homme parle à une femme, pour lui dire toi, il lui dit « at ». Mais si un homme parle à un homme, pour lui dire toi, il lui dit « ata », en le mettant plus au féminin. Vous suivez?
Parce qu'il a plus besoin que la femme.
Pas plus fort.
Parce qu'il a... Il a plus besoin, il ressent plus le besoin de la suivante de supériorité.
C'est un peu mal exprimé, peut-être, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est exact. C'est-à-dire, naturellement, l'homme est sujet, alors s'il est objet, il l'est doublement, plus que la femme. C'est clair? Bon, vous percevez la logique de la langue. Donc, je referme cette parenthèse. Et le deuxième sens du mot « être », ça veut dire « avec ». Le premier sens... Ça introduit le complément d'objet. Le deuxième sens, et correspond à im. Im, avec. C'est clair? Alors, il y a certains textes où le mot de et ne signifie pas le complément d'objet simplement, mais signifie avec. Par exemple, ici. Bon, on en est averti par la tradition de l'écriture, par le fait que la voyelle n'est pas la même. Elle n'est pas assez double, elle est assez. Alors, le mot de « être » signifie donc, ici, « avec Dieu ». Alors, je vous reprends le problème. Évidemment, on ne peut pas lire qu'elle a eu un enfant du bon Dieu, si j'ose dire. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un avait dit, je crois, toi, hein, qu'est-ce que tu avais dit?
Non, grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu.
Avec l'aide de Dieu, ok. Je vais vous lire Rashi, et vous comprendrez mieux. Alors, ceux qui ont Rashi sous les yeux, suivez avec moi, « est haché ». Non, Rashi sur l'expression est Hachem. Kemo im Hachem. Ça veut dire comme s'il y avait écrit avec Dieu. Le et vient à la place de im, avec. Keshebara oti. Voilà ce que Chava, la première femme, dit. Lorsqu'il m'a créé, Veetishi et mon mari, Levado Berad. Il nous a créés seuls. Abal Bazé. Mais par rapport à lui, cet enfant qui vient de naître, que nous savons qu'il s'appellera Caïn, Shutafim Anu'im, nous sommes associés à lui. Ça se réfère à un enseignement du Talmud qui dit ceci, c'est que chaque être humain, après le premier homme et la première femme, donc depuis la deuxième génération, a trois parrains, si j'ose dire. Les deux parents qui lui donnent son corps et Dieu qui lui donne son âme. Vous y êtes? C'est bien clair. Voilà donc ce que signifie ce texte. Kaniti ish et haché. C'est-à-dire, à chaque naissance, les parents et Dieu collaborent. Pourquoi c'est important de l'apprendre? Parce que ça veut dire que le caractère spécifique de chaque individu vient de Dieu directement, par son âme. Du point de vue des corps, nous sommes tous analogues. Ce qui fait que chacun est ce qu'il est, le celui qu'il est, vient de son âme, et c'est cela qui est déjà indiqué par ce que dit Chava de Caï. Kaliti ish et haché. Alors, je termine cette lecture du premier verset, par la caractérisation de la manière d'être de Caïn, la prise de conscience qu'il a de lui, il se considère comme étant acquis. Ça ne veut pas dire encore ce que nous allons apprendre par la suite, qu'il deviendra assassin. C'est une des éventualités, c'est-à-dire s'il ne s'améliore pas, s'il ne passe pas du niveau de l'être naturel brut avec la tendance à l'impérialisme dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il est le premier, et qu'il va découvrir l'autre comme étant en plus, eh bien, il y aura finalement assassinat, suppression de l'autre. Mais ça n'est pas inéluctable. Il faut, entre-temps, il y a deux possibilités. Ou bien, il s'améliore et il prend conscience que bien qu'étant acquis, il a encore à se mériter, à s'acquérir, et alors le scrupule moral va s'introduire en lui, et pour cela il faut qu'il soit aidé par Abel, ou bien cela échoue, et alors le mécanisme naturel va fonctionner, puisqu'il est né le premier, il va supprimer autre. J'ajouterai simplement une phrase, Abel est en danger chez lui, tant que ça ne gêne pas Caïn, ça va, dès que ça le gêne, il est en danger. C'est clair ? Voyez-nous.
En fait, c'est sa mère qu'il considère comme acquis.
Oui, sa mère qui prend acte. Pourquoi ? Non mais, sa mère prend acte qu'elle a acquis un ish. Donc ce ish, lorsqu'il se connaît comme étant acquis. Je veux dire que, je ne voulais pas rentrer sur ce point, mais peut-être brièvement, la différence qu'il y a entre Adam et Caïn, c'est que Adam se connaît comme un être qui a été donné à lui-même et qui donc doit se mériter pour mériter d'être. C'est clair jusque-là ? Mais nous ne pouvons pas avoir conscience de nous comme Adam l'avait. Cela, il faut le reconquérir. C'est enfoui en nous, dans la première couche de notre hérédité. Ça, il faut le retrouver. Nous verrons d'ailleurs peut-être déjà aujourd'hui que l'enfant le sait naturellement. Et comment l'enfant le sait, on l'apprendra aussi. Mais très rapidement, on oublie d'être enfant. Et on devient Caïn ou Abel. C'est clair jusque-là.
Est-ce que Caïn n'était pas prédestiné ?
Non, justement, c'est ça que je veux vous expliquer. On est en plein dans le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédestination morale. Il y a un conditionnement naturel qui fait que l'on est plus ou moins facilement donné à la moralité, mais il n'y a pas de conditionnement moral. Je vous donne tout de suite la preuve dans le récit. La preuve, c'est que Caïn, bien que devenu meurtrier de son frère, va être protégé par un sursis. S'il avait été prédestiné à être meurtrier, eh bien, il aurait été puni de son meurtre par fatalité. Au contraire, il va être protégé par un sursis. Encore une fois, je reprends cette formule qui vient de Maïmonide d'ailleurs. Il n'y a pas de prédestination morale, mais il y a inégalité naturelle par rapport au problème moral. Certains naissent dans un milieu, dans un conditionnement, dans un conditionnement beaucoup plus apte, homogène à la moralité, ça lui est plus facile. Mis dans des conditions autres, plus difficiles, il peut échouer. Il sera mis à l'épreuve. D'autres sont au contraire d'emblée mis dans des situations privilégiées. C'est l'idée à laquelle nous devons nous habituer. Mais il n'y a rien de fatal. Ce sont des conditionnements, ce ne sont pas des déterminations. C'est bien clair ? Vous avez bien compris le problème ? Eh bien, Caïn va être protégé parce qu'il est donné dans cette équation que nous avons à résoudre dans la situation la plus difficile. C'est parce qu'il est né le premier qu'il a tendance, qu'il a tentation à se croire le seul. Et lorsqu'il découvre quelqu'un d'autre, il le découvre comme un plus. Ça le gêne. Ça, c'est la situation naturelle. La réussite de l'amélioration morale, c'est de faire une place à Abel. Et vous savez à quel point la société humaine doit reconquérir perpétuellement cette donnée. S'il n'y avait pas la police, dans le mot français de police, pas le mot grec. Le mot grec, ça signifie la cité. Mais s'il n'y avait pas la police, dans la cité, eh bien, le Talmud dit, chacun avalerait l'autre vivant, tellement il l'aime, je te mangerai. C'est-à-dire, dès que vous enlevez la police, eh bien, il y a une tendance à avaler l'autre. Ça, c'est le fait de nature. C'est clair ? L'idéal, c'est que l'ordre de fraternité règne sans qu'on ait besoin de police. Mais pour cela, il faut que la relation soit réciproque. Alors, ce qu'on découvre là, même si on apprend de nouveau que ça aujourd'hui, c'est important, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'illusion de croire qu'a priori les hommes sont des anges. D'ailleurs, je vous dirais, il y a une certaine méchanceté à se relier à l'autre comme si l'autre était un ange. Parce qu'on l'attend au tournant, et dès qu'il se révèle que c'est un homme et pas un ange, on lui en veut de ne pas être ange. C'est une méchanceté supplémentaire. Vous comprenez à quoi je fais allusion ? C'est-à-dire, la véritable fraternité consiste à considérer que, de même que moi, j'ai une tendance au bien et une tendance au mal, l'autre a aussi une tendance au bien et une tendance au mal. Si je considère que l'autre, a priori, fictivement, n'a qu'une tendance au bien, après, je me prépare le fait de pouvoir l'accuser par la suite d'avoir une tendance au mal. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là ? C'est la méchanceté de faire comme si l'autre, c'est un ange. L'autre, c'est un autre. C'est un autre un.
Mais cette notion enlève un petit peu la notion d'illusion positive, d'espoir dans
le... J'ai pas compris. J'ai pas entendu, tu parles trop vite.
Je dis, en fait, cette notion dont vous parlez enlève un petit peu la notion d'espoir
non.
dans l'autre et dans...
Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire, voilà. Je me connais. Là, j'aborde des versets qu'on n'a pas encore étudiés, mais ça veut rien. Je me connais. Je sais qu'en moi, il y a la tendance au bien et la tendance au mal. Bon. Alors, l'autre homme est comme moi, quelqu'un qui a la tendance au bien et la tendance au mal. Il faut que j'en tienne compte. Il y a une méchanceté particulière à faire comme si l'autre est un saint par définition, et à la première faute qu'il fera, je me déclenche contre lui. Tu n'as pas honte, c'est un homme comme toi. Il fallait le savoir à l'avance. Est-ce que c'est clair ? J'ai bien compris. Mais chaque fois, nous retrouvons ce schéma à quatre dimensions. Il y a aussi quatre manières d'aborder le problème. Je vais vous le dire en passant, ne notez pas ça, vous l'embrouillerez. C'est notre cours qu'on aura. Il y a aussi quatre doctrines différentes dans l'histoire des cultures sur la conscience morale de l'homme. Est-ce que l'homme est né que bon et le mal lui est arrivé par la suite, d'une manière de voir ? Est-ce que l'homme est né que mauvais ? Et le mal lui est arrivé par la suite, et le bien lui est arrivé par la suite. Vous avez compris ce que je veux dire ? Est-ce que l'homme est né ni mauvais ni bon, et a ni mal ni bien, il n'y a que l'utile ou l'inutile, l'agréable, le désagréable, etc. Ou bien est-ce que l'homme est d'emblée, de façon innée, doué d'une tendance au bien et d'une tendance au mal ? Bon, il suffit de se connaître suffisamment sincèrement pour savoir que c'est la quatrième équation qui est l'équation réelle. Chacun, se connaissant, sait que. Il a envie de telle ou telle chose qu'il connaît comme bien, mais aussi il a envie de telle chose qu'il connaît comme mal. C'est bien clair ? Et que ce qui veut le bien en moi, c'est moi, mais ce qui veut le mal en moi, c'est moi. C'est clair. Me connaissant ainsi, je dois savoir que l'autre aussi est comme cela. Et que si je me relie à l'autre comme s'il n'était que mauvais, c'est de la méchanceté. Si je me relie à l'autre comme s'il n'était que bon, c'est aussi de la méchanceté. Parce que finalement, il va s'avérer qu'il a aussi des faiblesses. Et je vais me donner le droit de lui en vouloir de surcroît, parce que je faisais semblant a priori qu'il n'était que bon. Vous avez compris ce que je voulais dire en passant. Méfiez-vous de cela. Ça joue souvent dans les haines passionnelles, irréductibles, je commence. Comment ? Toi, tu fais ça ? Pourquoi toi, tu ne l'aurais pas fait ? Vous suivez ? Bon. Il faut bien se méfier de cela. Alors voilà donc, c'était pour répondre à votre question. La modification de l'identité de Adam en Caïn, c'est Chava qui l'a faite. C'est-à-dire, le premier homme est né des mains du Créateur, tandis que le deuxième est né du sein de l'humanité. C'est cela l'acquis de son mérite. Et alors, il est défavorisé quant au problème moral. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune conscience au point de départ qu'il a à mériter pour être. Je suis. C'est clair ? J'essaie de vous faire découvrir l'ampleur de ce problème. On va faire un peu de philosophie très rapidement. Je suppose que vous avez étudié, dans vos études secondaires au moins, un certain nombre de théories morales, des moralistes. Un des problèmes que les moralistes posent, c'est quel est le fondement du bien ? Qu'est-ce qui fait que le devoir que je perçois comme devoir, c'est un devoir. Dans cette voix dans ma conscience qui me dit « tu dois ceci et pas cela » qui parle. Quel est le fondement du devoir ? Vous avez compris la question ? C'est bien clair ? Tout le monde, okay ? Et c'est ce qui explique la diversité des systèmes, des doctrines morales. Chacun va donner une réponse différente. L'un va dire « c'est la société ». Cette voix du devoir, c'est la société qui parle à l'individu. On appelle ça la morale sociale. Les autres vont dire, c'est la raison. On appellera ça les morales de la raison, les morales rationnelles. C'est la raison qui me dit que ceci est bien, ceci est mal. C'est déjà différent comme réponse. La société a ses propres intérêts, la raison a sa propre vérité. Et etc. Vous avez les morales du plaisir. C'est la tendance au plaisir qui se camoufle derrière un vocabulaire de devoir moral. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça veut dire ça fait du bien, ça fait du mal, c'est autre chose. Les morales du bonheur, tout ce que vous voudrez. Les morales naturelles, ce qui est bien pour l'évolution de l'espèce, c'est ça le bien. Le mal, c'est ce qui est mal pour l'évolution de l'espèce. Et le caractère commun de toutes les doctrines morales, sans exception, enfin je les ai explorées toutes autant que ça peut se faire, comme je vous dis souvent, au moment où je vous parle, il y a des livres qui paraissent, mais de tout ce que j'ai pu lire chez les philosophes de la morale, tous, sans exception, réduisent le bien à quelque chose d'autre. Ça veut dire on ne sait pas expliquer le fondement du devoir. On ne sait pas expliquer le bien par le bien. Que quelque chose soit bien parce que c'est bien, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas. Alors on dit, eh bien, je le ressens comme bien, je vais vous prendre un type de morale anglo-saxonne, l'utilitarisme. Vous savez ce que c'est ? Le pragmatisme moral. C'est ce qui est utile qui est bien.